à voix nue. Toute cette semaine, Stéphane Delisgorges rencontre Claude Lorius. Ce soir, réchauffement de la guerre froide dans l'Antarctique, Français, Américains et Soviétiques font équipe.
Claude Lorius, hier, on vous avait laissé très exactement en terre victorienne lors de ce raid très important avec un certain nombre d'aventures. Et cette fois, le temps aura passé, on va être, je crois, mais vous allez me corriger là encore, quelque chose comme en décembre 1974. Et là, autre aventure, là encore, très très importante, mais peut-être pour bien marquer les choses, votre conviction maintenant et votre instrument de travail est parfaitement identifié. Les bulles d'air qui sont contenues dans ces glaces antarctiques sont bien le seul moyen, et d'ailleurs je crois que vous dites, vous avez ce terme, le seul moyen direct d'avoir une compréhension et une analyse des différentes compositions des atmosphères passées et des climats possibles qui sont attachés à ces atmosphères. C'est bien ça, Claude Lorius?
Oui, c'est bien ça. Après qu'on ait démontré qu'on pouvait reconstituer la température, on a cherché à savoir quelle était la composition de l'atmosphère du passé. Et donc, dans les carottages qui reconstituaient le climat, on a en même temps analysé les bulles d'air qu'il y avait dans la glace. Et à notre grande surprise, dès le début de 1974, quand on a dit « on va faire des sondages pour le climat » et on a commencé à faire une ou deux analyses de gaz, on s'est dit « mais il y a quelque chose là, il y a du CO2 qui a l'air de bouger ». Bon, c'était une analyse difficile et ce qu'on voulait, c'était remonter très loin dans le temps parce que le gaz carbonique dans l'atmosphère, on le mesure depuis 50 ans. Et personne n'a une idée réelle de ce qu'il y avait avant.
Oui.
Et donc, c'est cette voie que l'on va chercher à explorer, en même temps que le climat, comment a changé la composition de l'atmosphère.
Donc, ce dôme C choisi, d'ailleurs, on verra quelle postérité il va avoir, puisqu'aujourd'hui s'élève une base avec ses deux gigantesques ballons ronds, une base franco-italienne qui s'appelle Concordia. Mais revenons en 1974. Qu'est-ce qui a décidé, qu'est-ce qui a primé, quels ont été les critères, Claude Lorius, pour aller à Dôme C, et puis sa position?
D'abord, les raids d'exploration qu'on avait fait donnaient une certaine idée du relief, mais surtout, c'est l'époque où l'on est capable, par avion, de déterminer l'épaisseur de la glace et donc avoir le relief du socle rocheux. Et c'est là qu'on voit qu'il y a, en certains endroits, des profondeurs de glace qui dépassent les 3 km des épaisseurs et qui sont centrés un peu sur des dômes. On voit que la glace s'écoule, on n'est pas au milieu d'un glacier. Et c'est les sondages menés par les Anglais, notamment, qui nous disent, voilà, il y a un site là qui devrait être intéressant, c'est celui de Dôme C. Dôme C, ça ne veut pas dire Dôme Claude, comme certains me l'ont dit à l'époque, c'est le Dôme Concordia.
Oui.
C'était l'accord, et nous allons d'abord y aller de nouveau pour voir ce qu'était ce site. Avec un avion américain, mais aussi avec un russe,
oui,
qui sera sur le terrain avec nous. On va passer 2 mois là, prendre des échantillons, et en revenant, on va dire, c'est un site formidable, on devrait essayer de forer là.
Alors pour le situer encore avec un peu plus de précision, Claude Lorius, si on partait de la base du Mont d'Urville, il nous faudrait franchir 1000 km cette fois pour se retrouver à une altitude de 1800 mètres. Qui est donc la situation exacte de ce dôme C, ce dôme Concordia. Et puis juste un tout petit mot, parce que vous avez dit que c'est à partir des avions. Je suppose que c'est à partir de l'utilisation de radars,
oui,
avec ces avions.
Très exactement.
Voilà.
Oui, effectivement,
oui.
Les avions sont équipés de radars.
Ils envoient une onde.
La zone. Les tests, c'est ce qu'on a mesuré en raid, puisqu'on a des valeurs, il y a des recoupements. Et on est capable d'avoir une carte en trois dimensions de la calotte antarctique.
Oui, on peut retenir qu'elle sera améliorée le jour où, voyant de plus loin, mais encore mieux, ce sont des satellites, en particulier comme le satellite ERS-1, qui amélioreront encore la qualité donc des images et de la profondeur et des glaces et de leurs dimensions.
Oui, c'est exact. Mais là, c'est pour aller encore un peu plus loin, oui. Mesurer les changements d'épaisseur. Les techniques utilisées à l'époque étaient quand même déjà très intéressantes parce qu'elles donnaient une structure un peu détaillée des couches basales. Oui. On voyait des ondulations qui pouvaient servir de repères chronologiques.
Alors, vous vous retrouvez quatre Français. Il y a Jean Campin, il y a Claude Chauffrias, François Gillet, vous, Claude Lorius. Et puis, on peut tout à fait le noter, il y a un William Voigt, qui lui est américain, et puis un Narcisse Barkov, qui est soviétique. Est-ce qu'on peut considérer, parce que c'est une réflexion qui vous vient assez souvent, Claude Lorius, que il y a eu vraiment une coopération, même pendant la guerre froide, entre Américains, Français, bien sûr, et puis Soviétiques, et c'en est un premier exemple, ça, ce travail fait à Domsé.
Oui, je dirais que effectivement, dès cette époque, mais le point d'orgue sera à la station Vostok plus tard, mais dès cette époque, effectivement, on voit sur le terrain russe, américain, français, même si politiquement on n'a pas un poids extrêmement important, eh bien on va ensemble être sur le site. Et les gens qui sont allés là-bas, effectivement, ce sera précieux parce qu'ils vont rentrer chez eux, ils vont favoriser les projets qu'on aura. Il y a donc deux sortes, vous savez, de représentations dans nos affaires. Il y a ceux basés sur l'amitié, parce qu'on a le même métier, vécu un peu les mêmes vies. Et puis aussi ceux qui sont basés sur les relations un petit peu diplomatiques, ceux qui ont le pouvoir de la logistique. Le problème de l'Antarctique, c'est que vous ne pouvez pas dire « je vais aller là pour faire ça ». Non, jamais nous, on sera arrivés au Domsé avec les convois qu'on a montés pendant plusieurs années. On n'y est jamais arrivé. Il faut donc avoir des pays qui, à la fois, assurent une présence logistique, c'est extrêmement important, et dans ces cas, c'est les Américains, un statut international parce que les Soviétiques, finalement, chacun en a assez de voir que cette guerre froide s'établit et tout, et je pense que le traité de l'Antarctique, c'est vraiment un symbole. Après l'hivernage de Charcot, les politiques, c'est pas dû à Charcot, mais c'est dû au fait qu'il y avait eu cette année géophysique internationale. Je veux dire, c'est formidable d'avoir un traité qui épargne un continent des querelles qu'on va trouver par ailleurs. Il y aura toujours un peu des querelles, peu importe, mais je veux dire, c'est la paix. Et surtout, c'est un continent qu'on va dédier à la science et qui est protégé pour ce qui concerne l'environnement. Je vous ai dit, on a abandonné la station Charcot. Dans la station Charcot, il y avait ma guitare. Bon, tout ça voyage vers la mer. Mais en principe, on nettoie. On nettoie tout ce qu'on a comme déchets.
Oui.
On garde l'Antarctique propre et on va au-delà. Il y a un comité international qui s'appelle le SCAR, Scientific Committee Antarctic Research.
Que vous connaissez bien.
Oui, puisque je l'ai présidé.
Oui.
Mais si vous voulez, qui vérifie que les programmes, effectivement, sont menés dans le respect des problèmes environnement. Et que chaque pays a le droit d'envoyer des gens pour voir que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que si les Américains savent qu'un Russe peut demander à venir, il faudra l'emmener, ça assure un équilibre automatiquement.
Et c'est vrai que je l'ai de façon extrêmement forte, et pour une période de temps bien donnée, toute exploration en vue des réserves minières, en vue des réserves pétrolières, ainsi de suite, non, interdit, c'est dévolu à la science, le grand continent blanc. Et on n'en bouge pas, voilà.
Interdit et respecté,
oui,
je dirais.
Et d'ailleurs,
c'est pas la même chose. Hein.
Oui, c'est ça. Et puis il y a aussi un autre aspect qui est important, c'est que les résultats de recherche, évidemment, à partir de ce terrain d'étude qui est ce continent, sont publics, au vu et à la connaissance universelle.
Oui, c'est vrai, c'est un des accords de ce comité. Il y a une communication de tous les résultats. Dès qu'on a quelque chose qu'on pense publier dans une revue scientifique, tout le monde est au courant.
Alors, retour à 1800 mètres d'altitude, 1000 km de la côte, nous sommes à Domsé. Et là, le 15 janvier, il y a un accident pour faire décoller les avions, compte tenu que, un, les pistes sont courtes, deux, elles sont bosselées, elles sont un peu difficiles, les avions décollent, retombent, c'est l'image que j'en ai en tout cas à vous lire, Claude Lorius. On leur met des petites fusées pour les aider, et boum, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Vous étiez dans l'avion, faut-il préciser?
Oui, bien sûr. Hein? Enfin, bien sûr. Oui. Bon, d'abord, parler de piste, ça, non, il n'y a pas de piste.
Oui.
C'est la neige, personne n'était là, il y a les sastrugis qui créent des dénivelés très courts et qui sont très durs. Et donc, les avions qui sont équipés de patins, de skis pour décoller, eh bien, on leur ajoute effectivement des fusées pour qu'ils accélèrent et prennent de la vitesse. Mais apparemment, ces fusées n'ont pas suffi, donc l'avion décolle un peu, puis se casse la gueule, et voilà. L'intérêt, évidemment, c'est qu'il fait tellement froid qu'il n'y a pas de feu qui se produit. Donc il n'y aura pas de mort. C'est déjà pas mal. Mais dans ces campagnes, les Américains ont laissé finalement trois avions lors des différentes phases d'exploration de ce site d'Opsé. Oui. Et je sais que là où j'ai eu le plus peur, moi, c'est quand, à la fin de la période de reconnaissance au Domsé, alors que j'avais déjà vécu deux accidents d'avion, les Américains m'ont dit « Claude, il n'y a que toi qui connais ce qui reste la base où on pourrait se réfugier, tu vas venir avec nous ».
Ça vous a pas...
Ça s'est bien passé. Non, j'ai eu peur. C'est tout. Mais bon, on s'en est bien tiré. Ce qui est extraordinaire, c'est que les Américains ont envoyé des équipes sur le terrain pour réparer et sortir les avions.
Oui.
Quand je pense à la note que l'on aurait eue s'il avait fallu aider à ça.
Non. Si, oui.
Les Américains ont été dans ces opérations, je dirais, d'une générosité extraordinaire.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir, comme on l'avait fait pour donc le raid précédent, à l'issue de ce travail à Domsé, en particulier de ces carottages? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a une chose que moi je peux retenir, puisque ça aura évidemment beaucoup d'écho par la suite, c'est une sorte de compagnonnage. C'est-à-dire que, bon, vous connaissiez déjà Jean Jouzel, on le connaît évidemment puisqu'il a été au GIEC avec un rôle important. Il a eu la médaille d'or du CNRS, comme vous l'avez eu vous-même, Claude Lorius. Il va être un petit peu, est-ce que je peux dire, c'est un récipient de l'air. En tout cas, il est celui qui prend en main vos carottages qui vont arriver du continent blanc. Et avec, bien sûr, avec Madame Merliva, vont mener un travail d'investigation scientifique très fort et faire encore avancer cette science des climats passés, cette climatologie. Donc, est-ce qu'on peut dater peut-être de façon un peu symbolique, Claude Lorius, ce parrainage de l'un
avec l'autre? La meilleure datation, c'est la médaille d'or du CNRS. Je pense que c'était bien vu. C'est pas souvent qu'on associe un homme de terrain avec quelqu'un de plus laboratoire. Et en tout cas, ce contrat d'amitié dure toujours maintenant. C'était pas une amitié de terrain, c'était une amitié intellectuelle.
Oui. Avec la même volonté de évidemment, de faire passer des messages scientifiques.
Oui, bien sûr.
Ça remonte à loin, la première émission où j'ai invité Jean Jouzel pour venir expliquer justement ces résultats-là qui est partagé avec vous.
Oui, c'est tout à fait vrai. Et Jean Jouzel, d'abord, est plus jeune que moi et maintenant, il est effectivement au top pour participer aux réunions comme celles qui viennent d'avoir lieu à Durban.
Oui. Alors, est-ce que je peux retenir le fait que ce forage que vous faites va atteindre 900 mètres et puis va encore se prolonger, grosso modo, à l'issue de Domsé, avant qu'on parte pour Vostok obligatoirement, parce que là, alors, tous les records vont être battus. S'il fallait trouver une comparaison, je crois qu'un cycle climatique, c'est quelque chose comme 150 000 ans, je me trompe pas, Claude Lorius, à peu près
110
110, oui. Bon. Est-ce que là, les carottages donnent des indications sur quelque chose qui serait un cycle entier, qui permettrait, voire même plus, et qui permettrait d'affiner encore l'image des climats passés?
Mais d'abord, il nous donne une première confirmation. Je vous ai dit, on est parti d'une relation un petit peu théorique et expérimentale, la composition de la glace liée à la température. Bon, là, on descend à 900 mètres de profondeur. Déjà, il faut quand même dire que à ce moment-là, c'est une équipe de forage de mon laboratoire à Grenoble. C'est pas, c'est nous qui faisons le trou, avec le support, bien sûr, des Américains. Mais 900 mètres de profondeur, c'est 40 000 ans d'archives. Et 40 000 ans, c'est loin d'être un cycle climatique naturel. Néanmoins, on a quelque chose qui nous conforte. La Terre était dans un climat glaciaire jusqu'à il y a moins 20 000 ans. Elle est dans un climat chaud depuis 10 000 ans. On a donc le passage d'un état glaciaire à un climat chaud, qui est une variation naturelle, et qui nous montre effectivement, nous on avait une droite, on avait une idée théorique, et ben non, on voit qu'on ne s'est pas trompé, et que maintenant on est sûr que l'enregistrement des climats du passé, on y est, on est sur le bon chemin.
C'est ça.
Pour nous, c'est une confirmation essentielle, je dirais, parce que jusqu'à maintenant, on a raisonné, et puis il y aurait pu avoir un truc qui n'allait pas, quoi. Bon, eh ben non, ça y est. Donc ça nous conforte, et à partir de là, je dirais, nous ne sommes pas les seuls, hein, c'est cet intérêt de forer en profondeur en Antarctique. Plusieurs pays vont s'y mettre.
Et en tout cas, commence cette lente compréhension et de bonne compréhension de cette périodicité du glaciaire, de l'interglaciaire et du glaciaire. Cette sorte de valse continue donc de ces périodes qui marque l'histoire des climats. Alors, sans transition, malheureusement, parce que il faut qu'on avance, on va encore avancer dans les neiges. Alors, c'est un endroit là où vous rêvez depuis longtemps d'aller, ça s'appelle Vostok. Vostok est soviétique, bien sûr. Sa situation fait qu'il est au cœur de l'Ilantsis. L'Ilantsis, c'est le continent de glace. Hein. C'est comme ça qu'on peut traduire,
oui,
je suppose.
Bien sûr, hein. Oui.
Et vous dites que vous en avez longtemps rêvé de cet endroit, Claude Lorius. Pourquoi ?
Ben écoutez, c'est comme les astronautes qui vont partir. C'est le pôle de froid de la Terre. Bon, j'ai fait des choses, mais jamais dans un site aussi éloigné, j'étais au pôle sud mais avec les avions américains. Et là, qui plus est, on sait qu'il y a des carottages, des carottes de glace que les soviétiques ont réalisées.
Oui.
Et quand on a fait Domsay, les 40 000 ans, l'idée qu'on avait que peut-être dans les bulles d'air il y avait une information, on voit effectivement, en premières analyses, on voit que c'est pas la même chose en plein âge glaciaire, il y a 20 000 ans, que maintenant. Et donc, là, c'est le miracle, parce que à la station de Vostok, il y a des kilomètres de carottes qui nous attendent, et toujours sur ces relations basées sur l'amitié, la connaissance, eh bien, nous, notre mérite, ce qui nous rend valide, c'est qu'on est bon en analyse.
Oui, c'est ça.
Et que je dirais que moi, j'avais un peu le sens du goût des relations extérieures. J'étais président du SCAR,
oui,
parce que, par exemple, j'étais capable de faire chanter les gens de 20 pays en même temps sur l'air de Frère Jacques. Vous rigolez.
Non, mais c'est
extrêmement important.
Ah, bien sûr.
Et donc, on sait qu'on va pouvoir aller à Vostok. C'est un grand événement. On s'y attendait pas. C'était la guerre froide. Et tout d'un coup, on voit que ça va marcher.
Alors, il y a un seul de ces soviétiques qui parle français quand vous êtes là-bas. Et pourquoi, Claude Lorius, ont-ils une telle compétence pour les carottages? Parce que ce sont des pétroliers, c'est ça? Ils maîtrisent très très bien cette technique de sondage par carottage, c'est ça la raison essentielle?
Bon, d'abord, personne ne parlait français. Faut pas se faire d'illusions, hein. Il y en a un qui parlait quelques mots d'anglais, mais les autres, bon, ça va. Mais nous, on parlait pas non plus bien russe. J'avais beau prendre mon livre à 6000, j'avais pas été très loin. Mais c'est pareil, l'ambiance se crée. Vous savez, dans une base comme ça, où il y a l'inconfort, Les gens, sont arrivés à installer des coins où ils ont un peu d'intimité. Et de nouveau, qu'est-ce qu'on fait? On chante. C'est incroyable, c'est comme ça. Et des airs russes, bon, après, moi, je suis capable de les reprendre. Donc, il y a un lien qui se fait. Et les Soviétiques, eh bien, ils nous ouvrent les portes de leur stock de carottes. Il y a des kilomètres de carottes qui sont là. Il faut dire que pour les Américains, c'était aussi une opération publicitaire. Hein.
Oui.
Avoir un avion américain là, l'amiral qui commandait l'US Navy, il est venu. Il a même pris une copilote qui est une femme.
Ah oui, vous remarquez que c'était une... Donc, il y avait une petite blonde ce jour-là
voilà.
Au Colombe.
Hein. Non, mais je veux dire, c'était bien. Juste pour vous donner un exemple, l'avion, il va rester 3-4 heures, il ne l'arrête pas. Parce que s'il l'arrête, il ne va pas redémarrer.
Il ne coupe pas ses moteurs.
Voilà, on a le temps de faire un peu la fête, connaissance, et puis l'avion s'en va et nous, on reste là. Heureux.
Eh oui. Et alors, on peut dire le nom, puisqu'on a déjà donné les noms précédemment. Donc là, cette fois, vos deux complices, c'est Michel Cressever, je ne sais pas si je prononce bien, et puis Jean-Robert Petit, avec vous, Claude Lorius.
Très exactement, nous sommes trois Français du laboratoire de Grenoble qui allons effectivement essayer de voir ce qu'il y a comme ressources, entre guillemets, au point de vue carotte.
Alors là, vous allez obtenir des carottages de combien? Peut-être aussi, on peut dire que vous allez repartir, évidemment, par donc une installation soviétique qui est la base de Mirny. Et c'est là où seront embarqués aussi les précieux échantillons. Mais en termes donc de profondeur de carottage, vous en êtes à combien? Et ça va, si on traduit encore une fois ce carottage comme mémoire du passé, vous arrivez à combien de temps?
Le premier carottage marquant sera justement celui où on a un cycle climatique complet. Ouais. C'est-à-dire qu'on a 150 000 ans d'archives. La profondeur doit être de l'ordre d'un peu moins de 2 kilomètres, mais on a 150 000 ans d'archives. Et là, on sait que l'on a effectivement le dernier cycle climatique, celui qui est gouverné par la balade de la Terre autour du Soleil, qui change, il fait surtout 100 000 ans. Après, il va se mettre à faire froid, et il fait froid notamment avant qu'on repasse dans un climat chaud. On a un dessin parfait du climat. Et bien sûr, ce qui va nous apporter la célébrité, c'est qu'on va analyser les bulles d'air qui sont dans cette glace.
Encore une fois, le même messager des climats passés... Alors, vous avez cette phrase à un moment, donc on peut évidemment immédiatement partager, Claude Lorius. C'est une phrase de commentaire où vous dites qu'il faut beaucoup d'imagination pour penser que jour après jour, nous remontons dans le temps. C'est une enquête matérielle qui permet de remonter dans le temps, c'est-à-dire qu'on joue de l'espace glaciaire et ça nous donne le temps. C'est beau quand même, non? Moi, je trouve que c'est une belle
image.
Oui,
c'est beau,
peut-être
mais
habitué,
je veux dire...
Claude Lorius.
Il faut quand même bien réaliser les conditions dans lesquelles on travaille. Cette fois, on est dans des chantiers où il fait plutôt au moins 50, qu'on descend le carottier, il faut remonter, tout ça prend beaucoup de temps. Et il faut quand même avoir la motivation intellectuelle pour se dire, et ce qui nous sauvera finalement, ce qui nous aidera beaucoup, c'est que sur place, on fait une petite découverte. Que je peux résumer en deux mots, la taille des grains de la glace sont liés aux périodes climatiques. Et sur place, on est capable de dire, ça y est, on a un cycle climatique complet. En faisant des observations sur place, avec un microscope, notre œil, et on est sûr qu'on a gagné le gros lot.
Oui, vous avez compris que l'indice, cette fois, c'était cette taille de cristaux.
Sur place. Les analyses,
sont variables.
On les fera qu'au retour.
Oui.
Et puis, il n'y a pas que les analyses. Hein. Il faut, dans des opérations comme ça, il faut des auteurs quand on écrit des articles. Combien? De quel pays? Et la chose que j'avais faite à l'époque, moi, j'ai dit, les Soviétiques, c'est pas très populaire, hein, le communisme, à un moment, là. J'ai dit, ceux qui viennent avec moi le savent. Nous publierons en commun les résultats. Sinon, vous ne venez pas.
Oui, c'est très important, ça.
Absolument. J'ai dit, on est au-delà des problèmes de relations politiques. C'est une opération commune. Nous signerons ensemble les résultats.
Oui.
Et la vraie consécration, c'est quand on fait la couverture avec trois articles dans une revue
peut-être célébrissime, l'une des deux plus célèbres au monde. Il s'agit de Nature.
Et oui. Alors là, le monde change.
Alors, on va rester sur une dernière image parce qu'on ouvrira les journaux scientifiques demain, Claude Lorius. Mais juste, là encore une fois, donc évidemment difficile de se laver, évidemment il n'y a pas de l'eau courante tout le temps, donc il y a un sauna. Et alors là encore, généralement il fait plutôt moins 60 dans le petit coin sympa de Vostok. Et après le sauna, vous sortez complètement à poil dans la neige, Claude Lorius?
À poil, oui.
Ouais, enfin, un maillot de bain, mais enfin,
vous êtes... Non, pas avec... on va pas, après, non, si ça gèle sur ça. Non, oui, bon, c'est vrai, oui. On a un moment d'euphorie, puis après, on boit un coup. Et puis, voilà, ça marche. Mais c'est une aventure humaine formidable aussi. Donc, moi, c'est ce que j'aime, c'est que dans tout ça, il y a toujours eu un lien, même les équipes. Entre Français, quand on fait des trucs un peu en dehors de la routine, un peu aventureux et tout, ça marche. Il n'y a pas besoin d'ordre, ça tourne. De temps en temps, il faut gueuler un peu, quoi. Mais voilà. Et là, ces ambiances, pour moi, c'est...
Vous les regrettez ?
C'est plus de mon âge, mais oui, c'est
vrai. Ça a été un grand moment, des bons moments.
La vodka qu'ils étaient arrivés à garder, parce qu'ils n'avaient rien à bouffer, les Russes, hein. Quand on arrivait avec les avions américains, l'avion était plein de vivres. Parce qu'il ne restait plus que, je ne sais pas quoi, moi, des haricots. Et donc, on soignait le moral de cette façon.
C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Stéphane Delis-Georges rencontre Claude Lorius. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Chantal Nouvelot, réalisation Anne Sécheret, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 500 jours et podcastable pendant 7 jours sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Stéphane Delis-Georges avec Claude Lorius.